Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges. Et aujourd'hui, nous accueillons dans notre studio Maître Eugène Bangoura. Bonsoir Maître.
Bonsoir Monsieur Bouyagué, bonsoir à tous.
Alors on va parler d'un problème assez compliqué, peut-être vieux comme la nuit des temps, et qui se retrouve un petit peu dans l'actualité en ce moment, mais c'est peut-être anecdotique, c'est les rapports entre la justice et la politique. C'est une affaire beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Par exemple, le procès de Nicolas Sarkozy est une affaire de droit privé.
C'est une affaire de droit commun. Ce dernier procès dit procès Big Malion est une affaire de droit commun, puisque l'on jugeait pour certains prévenus des abus de biens sociaux, des faux, ce sont des infractions de droit commun. Et pour l'ex-président de la République, c'est une infraction particulière liée à la publication de ses comptes de campagne et au respect surtout du plafond prévu pour les campagnes électorales. Ce sont des infractions de droit commun qui ne sont pas commises par un politique dans son action politique, puisque, au contraire, ces infractions-là sont commises par un prétendant politique qui prétend accéder à une fonction.
Sont-elles politiques ? Est-ce qu'un homme politique l'est déjà pendant sa campagne ? C'est-à-dire que, en gros, est-ce qu'il faudrait que l'immunité qui est liée à l'exercice d'une tâche politique, est-ce qu'il faudrait que cette immunité soit déjà présente au moment de la campagne électorale? Je pense qu'il y aurait 60 millions de candidats.
Pour le coup, la pénurie de candidats serait certainement combattue. Non, évidemment qu'il ne faut pas d'impunité lorsqu'il s'agit non pas de l'action politique stricto sensu, mais d'une action presque personnelle qui vise à permettre aux candidats d'accéder à des fonctions. Les règles qui gouvernent cette période-là visent à assurer, autant que faire se peut, la sincérité du scrutin. Il est évident que si on pose des règles et que, en même temps, on assure aux candidats une impunité, c'est-à-dire qu'on délivre un blanc-seing au candidat, le risque fondamental, c'est de porter atteinte à la sincérité du scrutin, et ça, c'est très problématique.
Alors, pour en revenir à Nicolas Sarkozy, pendant qu'il était président de la République, il était couvert par ce qu'on appelle, c'est pas de l'impunité, c'est ce qu'on appelle l'immunité liée à sa fonction.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'immunité, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte une paralysie des poursuites judiciaires pendant un temps donné, pendant le temps de l'exercice du mandat électif, qui repose sur l'idée finalement que, à l'occasion de l'exercice de son mandat, le président de la République répond à un certain nombre de contraintes et d'objectifs qui sont notamment la conduite de la politique de la nation et que son agenda ne doit pas être perturbé par les enquêtes, les rendez-vous judiciaires. C'est pas l'idée d'un confort personnel de l'homme qui exerce la fonction, c'est l'idée que cette fonction puisse se poursuivre parce qu'elle a été confiée par le peuple français, que cette fonction puisse se poursuivre jusqu'à son terme sans que la justice ne puisse y mettre un frein. C'est aussi le respect, d'une certaine manière, du principe essentiel en démocratie de la séparation des pouvoirs. J'imagine l'hypothèse d'un juge d'instruction qui, alors que le président est en exercice, le convoque dans son bureau, le met en examen et sollicite du juge des libertés qu'il soit placé en détention. On peut imaginer cela aussi.
Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'impeachment.
Oui, mais c'est une procédure particulière aussi aux États-Unis. L'impeachment, elle n'est pas confiée à un juge de droit commun.
Voilà, c'est ça.
Elle est confiée à des parlementaires. Il y a à peu près l'équivalent dans la Constitution française pour des crimes très particuliers, oui, d'intelligence avec l'ennemi ou de trahison, qui conduisent finalement à empêcher le président de la République à continuer de nuire.
Oui.
Mais pour ce qui concerne les infractions de droit commun, si on imagine un seul instant qu'à l'occasion de l'exercice du mandat, un président de la République puisse être placé en détention provisoire, ou même sous contrôle judiciaire, avec par exemple l'interdiction de rencontrer tel ministre, ou la politique de la nation en pâtirait, c'est l'évidence. Oui. Pour autant, cette paralysie, elle est temporaire.
Voilà, c'est ça.
Et les poursuites sont préservées, puisque notamment la prescription, c'est-à-dire la possibilité de poursuivre le président de la République, est prorogée dans le temps.
Oui.
Et à l'issue de son mandat, effectivement, les juges retrouvent la liberté de mener leurs actions.
Ben voilà, c'est ce qui est arrivé, c'est ce à quoi on assiste maintenant. Alors, il y a eu un autre cas auquel on ne peut pas ne pas penser actuellement, c'est l'affaire Fillon. Là encore, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de droit commun encore. Hein. C'est une sorte d'abus de biens sociaux. Quoi.
C'est une affaire de droit commun qui comportait deux volets. Dans un premier volet, il était reproché à M. Fillon, au temps où il était parlementaire, d'avoir disposé d'une partie des ressources affectées aux parlementaires pour rémunérer un travail de son épouse que l'on a estimé inexistant. Donc c'est du droit commun, c'est du détournement de fonds publics, et ça n'est pas dans le cadre d'une action politique.
Voilà. Alors... Par contre, ça s'est produit quand même pendant son mandat de député.
Ça s'est produit pendant son mandat de député. Mais ce qui lui est reproché à cette occasion-là, ça n'est pas un acte qui est en lien avec sa fonction de député. Ça n'est pas un acte politique.
Non.
Le fait de choisir de rémunérer quelqu'un pour un travail qui n'est pas effectué n'a rien de politique.
Oui. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la campagne électorale assure une sorte d'immunité? Et bien entendu, la réponse est non, puisque dans le cas de l'affaire Fillon, la justice... Alors, on accuse parfois la justice d'être un peu lente, mais là, pour le coup, elle a été d'une fulgurance absolument extraordinaire.
Elle a effectivement fonctionné selon un rythme qui est assez inhabituel. Mais le reproche que l'on fait à la justice, il est ambivalent. Si la justice avait laissé faire l'élection et que M. Fillon ait été élu président de la République, on arrivait à l'hypothèse d'une paralysie dont on parlait tout à l'heure.
Pendant cinq ans,
impossibilité de mener quelque procédure que ce soit à l'encontre du président de la République en exercice. Les poursuites auraient pu reprendre après l'exercice de son mandat ou de ses mandats. Et s'il s'était avéré qu'à l'issue de ses mandats, il était condamné pour détournement de fonds publics, on aurait entendu les mêmes reproches sur un autre plan. Comment a-t-on pu laisser un auteur de détournement de fonds publics exercer la charge suprême de l'État? Donc si la justice ne bouge pas et laisse faire l'élection présidentielle, vous avez le risque de critique. Et puis la justice bouge et finalement, de fait, perturbe les élections présidentielles. Et la critique s'organise aussi sur cette rapidité inhabituelle. C'est inextricable.
Ah oui, c'est une affaire perdant-perdant, en fait.
C'est une affaire perdant-perdant dans... ce type d'affaire, la justice prend des coups, quelle que soit l'hypothèse choisie.
Et d'une certaine façon, les hommes politiques aussi prennent des coups qui sont assimilés par la population comme des coups portés pour leur action politique, alors qu'il s'agit d'autre chose.
En fait. Oui, pour le coup, l'affaire dont nous parlons n'a encore... rien à voir avec, encore une fois, rien à voir avec la décision politique, n'a rien à voir avec l'action politique. Le fait de rémunérer son épouse pour un travail qui n'est pas effectué, en tout cas c'est ce qu'a dit la justice, ne relève pas de l'action politique ni de la décision politique.
Du tout. Alors... l'affaire de la justice et de la politique est très compliquée parce que, au fond, les hommes politiques ont une justification qui est celle, dans les démocraties, qui est celle de la volonté populaire. Les juges, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme légitimité ? Ils n'ont que la loi.
C'est vrai qu'il y a toujours cette opposition entre les politiques et les juges, et les politiques en jouent d'ailleurs parfois de manière éhontée.
Oui.
Ils se drapent dans leur légitimité, le plus souvent issue du suffrage universel, pour considérer qu'ils ne sont pas des justiciables comme les autres. Ce temps-là est révolu néanmoins. L'idée que l'on puisse, par la seule onction du suffrage universel, échapper à l'obligation d'avoir à rendre des comptes à la justice est une idée qui est aujourd'hui périmée. Et je pense que les politiques ont saisi que la justice ne s'arrêtera pas à la porte de leur bureau. Pour autant, l'intervention des juges... est-elle légitime au regard simplement des infractions de droit commun qu'on peut reprocher à un politique, ou est-elle aussi légitime, quitte à pénétrer en quelque sorte dans le domaine de l'action publique? Je m'explique. C'est toute la difficulté que l'on a avec une institution comme la Cour de justice de la République.
Oui, qui a été créée exprès.
Qui est une institution... judiciaire, bien que sa composition soit hybride, c'est une institution judiciaire qui est censée juger des actions menées par les ministres à l'occasion de leur action politique. On a par exemple cette affaire du sang contaminé. Oui. Qu'il y a quelques décennies a été évoqué devant la Cour de justice de la République. On a aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a été mis en examen il y a quelques semaines. On est à la phase de l'instruction. Pour une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire pour avoir, en qualité de ministre, pris une décision, donc c'est une décision du ministre, dans ses fonctions politiques, avoir pris une décision que d'aucuns qualifient comme une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire en mélangeant et l'intérêt public et l'intérêt personnel.
Personnel ou plutôt de son client.
Ou l'intérêt de son client,
mais professionnel,
ce qui renvoie à un intérêt personnel. Cette mise en examen est intervenue à la suite d'une plainte qui a été déposée notamment par des syndicats de magistrats. Ah. Or, on sait que les relations entre le garde des Sceaux et les syndicats de magistrats ne sont pas nécessairement au beau fixe. On a vu au moment de sa nomination qu'effectivement, ils n'ont pas absolument applaudi à cette nomination. Le risque, c'est celle de c'est celui de l'instrumentalisation aussi de la Cour de justice de la République. Parce que l'un des objectifs, peut-être, même s'il n'est pas avoué, c'est que la mise en examen du garde des Sceaux provoque sa démission. Il a été mis en examen, il n'a pas démissionné.
Ah ben c'est la présomption d'innocence.
Oui, mais on sait très bien que la présomption d'innocence... lorsque l'on est ministre en exercice, peut-être difficile à concilier avec un tohu-bohu médiatique.
Oui, hélas. Alors, on a assisté avec l'épidémie de Covid à un renouveau de ces mélanges de genres entre la justice... Et la politique, il y a eu une quantité importante, je ne sais plus combien que c'est des milliers, je crois bien, de plaintes.
Ce sont des milliers de plaintes au mois d'août dernier, d'après les éléments que j'ai pu consulter, près de 15 000 plaintes sont arrivées sur le bureau de la Cour de justice de la République, contre l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, contre Mme Buzyn, ministre de la Santé, contre le successeur, M. Véran, sur la gestion de la crise sanitaire. Alors, ce qui est un peu étonnant et même très surprenant, c'est d'abord que cette crise sanitaire n'est pas terminée. Cette crise sanitaire n'est pas terminée, qu'on imagine déjà d'engager les responsabilités des uns et des autres, et pas les responsabilités politiques, les responsabilités de nature
personnelle
et pénale. Mmh. C'est d'abord surprenant de ce point de vue-là.
Oui.
Et puis de deuxième part, ce qui peut être aussi surprenant et peut-être susciter l'interrogation, c'est de savoir si dans ce cadre-là, l'action politique est justiciable d'une action pénale, d'une mise en cause pénale devant la Cour de justice de la République. Les ministres, Premier ministre, ministre de la Santé, dont il est prétendu qu'ils n'auraient pas fait les bons choix, à supposer que ce soit les leurs,
oui, c'est ça. Et avait-il le choix, des fois même,
serait justiciable d'une culpabilité pénale. Entre l'absence d'impunité, ou plutôt l'impunité que certains voudraient réclamer pour tous les faits et gestes des politiques, et qui serait scandaleuse, cette impunité serait scandaleuse, et l'engagement systématique d'une responsabilité pénale, sans recul d'ailleurs pour le coup, il y a une vraie interrogation sur finalement la manière dont les politiques doivent exercer leur activité et peut-être le rôle aussi de la justice. Est-ce à la justice d'apprécier et de borner l'action politique ?
Oui, surtout lorsqu'il s'agit de questions... Alors, on disait que l'épidémie n'était pas terminée, mais on ne sait même pas comment elle a commencé.
Bien sûr. Bien sûr.
On n'a même pas l'historique ni la description scientifique de ce qui s'est produit.
C'est donc un choix qui est fait par certains de considérer qu'en toute hypothèse, au-delà de la défaillance éventuelle d'un homme politique dans son action politique, la seule réponse possible est celle d'une culpabilité au sens pénal. Ça interroge le juriste, mais ça doit aussi interroger le citoyen, puisque en réalité, la sanction légitime de l'action politique, ce sont les urnes. Ce sont les urnes. À certains égards, on s'aperçoit que les urnes sont désertées lorsque l'on connaît les taux d'abstention sur les dernières élections, mais en revanche, les bureaux des juges sont pris d'assaut. Est-ce que, et c'est, je crois, une interrogation légitime, est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut pour notre démocratie?
Alors, il y avait une ancienne ministre, c'était à l'époque de l'affaire du sang contaminé, je me souviens, qui avait dit « Je suis responsable, mais pas coupable ». Alors, les responsables politiques, ça, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais les coupables politiques, là, on sait moins ce que c'est.
Bien sûr, mais c'était, sauf erreur de ma part, Madame Dufoy, Georgina
oui,
Dufoy, qui avait eu cette phrase, qui lui a coûté d'ailleurs sa carrière politique. On a beaucoup glosé, on s'est offusqué, on a qualifié cette phrase de scandaleuse, et pourtant je ne la crois pas aussi scandaleuse que cela. Il y a une vraie différence entre le fait d'être responsable en qualité d'acteur politique, c'est-à-dire d'assumer le mandat qui a été confié par le peuple ou qui résulte d'une nomination. Il y a, dans l'exercice de ce mandat, une vraie responsabilité qui est essentiellement politique. La culpabilité, c'est-à-dire le fait d'être pénalement responsable d'une infraction, est une notion, me semble-t-il, différente. Et cette pauvre Madame Dufoy qui a dit « je suis responsable, mais je ne suis pas coupable », a, à mon avis, tenté de faire entendre, mais en vain, la différence entre ces notions.
Alors, il faut dire que la justice n'est pas très claire avec ces deux mots, parce qu'elle recherche des culpabilités, bien sûr, mais on parle aussi de responsable d'une infraction. Et coupable, oui, mais responsable. Il y a un petit laisser-aller, la lexicale, qui peut-être devrait être combattu.
Alors, il y a sûrement un petit laisser aller lexical, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit l'effet de la justice et que de la justice, puisque lorsque on lit un jugement sous la plume d'un juge, on ne lit jamais « déclare responsable de telle infraction », on lit « déclare coupable ».
Oui, d'accord.
De telle infraction. C'est ensuite passé à la moulinette
des médias,
des comptes rendus plus ou moins précis, et ça devient responsable.
Oui, c'est vrai. Oui. Et pour la politique, c'est typique. Alors, ce qui est aussi en jeu dans cette phrase, c'est le fait qu'un responsable politique ne prend pas de décision personnelle. Il est au sommet d'une pyramide de gens qui réfléchissent, qui agissent. Alors, il est en haut, il assume. C'est le verbe, c'est pas responsable, c'est assumer, quoi. Et l'erreur peut venir de quelqu'un qu'il ne connaît même pas, qu'il n'a peut-être jamais rencontré dans les couloirs de son ministère. Et bon, bah, il ne peut qu'en prendre les responsabilités. Il est payé pour ça, mais pour autant, il n'est pas coupable.
C'est toute la difficulté entre la manière dont une décision politique est prise, et vous avez raison, la décision politique, elle se forge au travers de conseils, d'avis qui sont donnés au ministre, qui est en position de décider, mais qui n'est pas nécessairement un spécialiste de la question. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Santé qui, sauf erreur de ma part,
est médecin. Et Agnès Buzyn aussi.
Mais tous les ministres de la Santé n'ont pas été des médecins. Faut-il que le ministre de la Santé soit nécessairement un médecin? Faut-il que le ministre des Sports soit nécessairement un athlète? Ça fait bien sur la photo, mais ça fait pas nécessairement des gens compétents, en tout cas pour diriger un ministère. Donc le processus de décision politique, c'est un processus qui, au bout du bout, est assumé par le ministre, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'est pas une décision individuelle, en ce sens qu'elle est forgée par le recours à des experts, par le recours à des conseillers. En revanche, la culpabilité, lorsque l'on recherche la culpabilité d'un individu, ce que l'on recherche finalement chez lui, c'est sa volonté consciente de violer un principe légal important, que ce soit une règle aussi simple que tu ne tueras point, tu ne voleras point. C'est cela qui est en cause dans la responsabilité pénale. C'est vraiment aller chercher chez l'individu la volonté qu'il a eue en conscience de bafouer la règle. Est-ce que dans le processus d'une décision politique, on retrouve les mêmes ressorts? Je n'en suis pas convaincu.
On peut prendre un exemple qui est dans l'actualité aussi. De temps en temps, on apprend malheureusement la mort d'un de soldats français qui sont en opération au Mali. Alors, est-ce qu'on peut dire que le président de la République, qui est donc en principe le chef des armées, est responsable de sa mort? Oui, mais il n'est pas criminel pour autant.
On peut sûrement soutenir que politiquement, sa responsabilité est engagée ou qu'à défaut, il doit en assumer les conséquences politiques. Et en assumer les conséquences, c'est à la fois expliquer au peuple souverain les raisons qui ont conduit à cet engagement militaire et expliquer aussi pourquoi cet engagement militaire s'est traduit sur le terrain par des drames humains, à charge ensuite pour le peuple souverain d'en tirer au moment des élections toute conséquence s'il croit illégitime la décision prise à cet égard par le président de la République. Mais imaginez engager la responsabilité pénale du président de la République à cet égard en estimant, et je mets des guillemets, que sa décision d'engager les forces armées sur tel ou tel terrain était criminelle, c'est, à mon avis, confondre les plans de la décision politique et de la culpabilité pénale.
Alors, la campagne au Mali a fait, et c'est fort heureux, beaucoup moins de morts que la Covid-19, mais on pourrait imaginer qu'il y aurait des plaintes déposées contre le ministère des Armées, de la Défense nationale, à chaque fois qu'il y a un militaire qui est tué.
Mais bien sûr, on pourrait, en poussant le raisonnement d'une responsabilité politique qui confine à une culpabilité, on pourrait imaginer effectivement que des plaintes soient déposées. Alors, je ne crois pas qu'en l'état, le droit permette d'aller jusque-là, mais somme toute, les prémices de ce raisonnement apparaissent lorsque on tente de sanctionner l'action politique, et je parle bien d'action politique, par une responsabilité de droit pénal. Je veux dire aussi, parce qu'il ne doit pas y avoir de confusion sur ce point, que s'interroger sur la faculté de sanctionner judiciairement l'action politique, ça n'est pas revendiquer l'immunité et l'impunité pour les politiques. Loin de moi cette idée-là. Oui. Si les politiques commettent des infractions de droit commun, ils doivent en être jugés, ils doivent être jugés.
Je crois qu'ils sont d'accord au fond, ils le disent eux-mêmes.
Je pense qu'ils n'ont plus le choix.
Oui, peut-être bien, oui.
Je pense qu'ils n'ont plus le choix, parce que...
J'ai entendu Sarkozy dire « je n'ai pas plus de droits que vous, madame », il était en train de signer une dédicace, « mais je n'en ai pas moins ».
C'est vrai aussi, oui, c'est vrai. Oui. Sauf que dans son cas, je ne pense pas qu'il ait été jugé pour des infractions politiques, mais il a en l'état été jugé à chaque fois pour des infractions de droit commun.
Il a été plus jugé peut-être pour de la responsabilité que de la culpabilité au sens d'une volonté... personnel, de nuire, voilà, ça c'est, à mon avis, il a été surtout victime de ses mauvaises fréquentations. Parce que dans ce milieu-là, il y en a aussi.
Sur cette affaire, sur cette affaire Big Malion, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il a été jugé comme le principal
bénéficiaire.
Décisionnaire et bénéficiaire. Puisque, somme toute, en qualité de candidat, il lui appartenait de décider si la campagne devait se poursuivre à grands frais ou au contraire, si compte tenu du plafond des dépenses qui étaient atteints, les moyens devaient être ramenés à de plus justes proportions, donc décisionnaires.
Ouais, quand même.
Et bénéficiaire.
Donc c'est bien ce qu'on appelle de la culpabilité. Voilà, c'est important les mots, parce que la justice c'est beaucoup des mots, et puis il y a un petit peu de, comment dirais-je, ça déteint les mots les uns sur les autres.
Oui.
ça s'use.
Et ça entraîne de la confusion.
Ah oui.
Et la confusion conduit effectivement à des excès, finalement. Peut-être à perdre le sens des choses. Encore une fois, je ne suis pas un militant de l'impunité des politiques, mais je m'interroge comme citoyen, citoyen, sur la nécessité d'amener sur le terrain judiciaire des décisions politiques.
Alors, en fait, c'est pas des décisions politiques qui sont amenées sur le terrain judiciaire, c'est toujours les gens qui les ont pris. La justice ne peut intervenir que contre des personnes, alors éventuellement des personnes morales.
Éventuellement des personnes morales, mais le plus souvent contre des personnes physiques,
voilà, c'est ça.
Qui auront à répondre... personnellement.
Voilà, de quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes.
Ou pas fait, d'ailleurs.
Ou pas fait, oui, bien sûr. Et alors, j'ai vu aussi dans l'actualité, par exemple, des associations comme Sortir du Nucléaire, qui, tous les quatre matins, portaient plainte contre la centrale de Belleville, par exemple, pour ne citer que celle-là, qui est la plus proche de chez nous, pour assigner EDF, pour ceci, cela, protester contre la mise en danger d'autrui. Alors, 9 fois sur 10, la justice, parce que les gens... La justice, c'est un service public qui ne rejette pas les gens, quand on s'adresse à la justice, on n'est pas foutu à la porte comme ça, on prend soin de nous quand même.
Oui.
Et alors donc, ces gens-là étaient, bon, on leur disait d'accord, vous portez plainte, on va s'en occuper. Alors bien entendu, la justice ne se prononçait que sur la forme. 9 fois sur 10, c'était parce que la plainte n'était pas suffisamment nominative ou des trucs comme ça. Bien entendu, la justice ne peut pas se prononcer sur le fond de savoir si les radiations sont mauvaises pour le Berry, et combien, à quel niveau, etc. Je pense pas qu'il y ait auprès de la Cour de Bourges un expert en radiation nucléaire.
Oui, puis ça va dépendre du sens de la plainte. S'il s'agit de déposer une plainte devant la justice pour soutenir devant un juge qu'il y a mise en danger délibérée d'autrui par le seul fait qu'une centrale nucléaire fonctionne à proximité d'une population. C'est pas l'œuvre de la justice.
Non,
là, pour le coup, c'est une décision politique, avoir recours ou non au nucléaire, voilà. Estimer que, en l'état des connaissances, le nucléaire serait plus nuisible ou moins nuisible, tout cela relève de la décision politique. En revanche, si une centrale nucléaire dysfonctionne et n'assure pas un minimum de des règles de sécurité prévues par la loi, la plainte peut peut-être s'engouffrer dans cette brèche en signalant que sur cette centrale nucléaire, dans cette situation particulière, les règles de sécurité ont été méconnues, etc. etc., voilà, etc.
Donc là, il y a une culpabilité, au moins une responsabilité pénale. Mais la question, c'est la compétence scientifique de très haut niveau qui est demandée ainsi à la justice. Comment fait-elle ? Et pour la santé aussi ?
La justice s'entoure d'experts, fait appel régulièrement sur des questions techniques à des experts, et il y a des experts de tout type, mais y compris dans des litiges du quotidien. Si vous achetez une voiture qui ne démarre pas, vous saisissez un juge, c'est pas le juge qui va descendre avec sa caisse à outils dans le moteur de la voiture, il fera appel à un expert qui pourra lui donner des éléments de fait sur les raisons de ce dysfonctionnement. L'expert ne prendra pas la décision, mais éclairera la décision du juge.
Oui. Et autre cas qui m'a paru intéressant aussi, la législation sur les primes données aux agriculteurs en fonction de la nature de leur terrain, en fait, a changé sous l'impulsion, me semble-t-il, de directives européennes. Et dans le pays fort, les agriculteurs sont pénalisés nettement. Alors ils ont porté plainte. Mais là encore, ils portent plainte contre une décision politique. La justice ne peut pas. Alors c'est la justice administrative, donc ça va remonter tout doucement jusqu'au Conseil d'État, lequel Conseil d'État avait déjà été consulté par le gouvernement au moment
avant
de prendre la
mise en œuvre
décision,
de
très
la
probablement,
décision.
Oui, c'est ça. Et alors comment, à quoi ça sert? Parce que c'est quand même du travail pour la justice qui n'en manque pas, hein.
Alors, je ne connais pas le détail de ce dossier, mais le recours à la justice dans certaines hypothèses, c'est aussi un moyen de se faire entendre pour exercer un rapport de force. C'est-à-dire que c'est alors... L'objectif n'est pas alors d'obtenir nécessairement une décision qui soit conforme à ses attentes, mais l'objectif, c'est de créer une caisse de résonance qui puisse permettre ensuite, j'imagine, de mettre en place des discussions politiques, syndicales, pour conduire peut-être l'État soit à réviser sa décision, soit à compenser les pertes induites par sa première décision. C'est aussi la volonté d'instaurer un rapport de force.
Donc la justice doit se méfier des hommes politiques, et ils doivent aussi se méfier de ceux qui les ont élus, car dans le peuple, il y a des gens qui instrumentalisent la justice à des fins politiques.
C'est évident. D'abord, il y a des hommes politiques qui instrumentalisent la justice à des fins politiques.
Ouais.
Et puis, il y a des justiciables qui instrumentalisent la justice à des fins autres que les fins légitimes. Et c'est toute la difficulté du rôle de la justice. Parfois, cette instrumentalisation est consciente, pensée volontaire, je vous disais tout à l'heure, créer un rapport de force, donner une caisse de résonance, et d'autres fois elle est totalement inconsciente parce qu'il y a chez certains la croyance que la justice peut tout. C'est-à-dire que chaque situation conflictuelle doit être réglée par la justice. Mais la justice n'est pas la seule institution qui puisse régler les difficultés au sein d'une société. Et par ailleurs, le juge n'est ni omniscient ni omnipotent. Donc cette croyance finalement qui se développe de ce que le recours à la justice est l'alpha et l'oméga de la vie en société est une croyance qui est erronée. Et c'est une croyance qui, de surcroît, ne peut que générer de la frustration, puisque lorsque la justice ne peut pas résoudre un conflit, celui qui a cru pouvoir obtenir quelque chose de cette institution se retrouve le bec dans l'eau, est forcément déçu et nourrit nécessairement un ressentiment à l'égard de l'institution.
Oui. Alors, pour résumer, pour les hommes politiques au pouvoir, la justice est plus ou moins une magouille de l'opposition. Pour l'opposition, la justice est aux mains du pouvoir. Pour le peuple, la justice doit régler tous les problèmes que j'ai. Et alors en fait, l'image de la justice doit être un petit peu brouillée quand même. Hein.
Elle est brouillée. Elle est brouillée pour de mauvaises raisons. Elle est brouillée aussi pour de bonnes raisons. Et j'ai noté que le garde des Sceaux actuel avait déposé un projet de réforme de la justice dont le titre est l'intitulé déjà une gageure, restaurer la confiance.
Ouais. On avait déjà eu l'éducation de la confiance, ouais. L'école de la confiance.
Restaurer la confiance.
Et oui, et c'est peut-être un problème de notre société, c'est que personne n'a plus confiance en personne. C'était pratique, Dieu, pour ça. Tout est plus compliqué. Alors, évidemment, les gens se méfient. Mais se méfier, c'est normal. Et c'est pas forcément haïr. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre cher avocat ministre, pour nous rendre confiance en la justice ?
Oh, notre cher garde des Sceaux, pour essayer de renouveler l'image de la justice, de restaurer la confiance selon l'intitulé de cette loi, fait plusieurs propositions. L'une de ces propositions, parce qu'il y a toujours cette idée que la justice fonctionne mal, que les délits sont impunis, l'une de ces idées, c'est de remplacer ce que l'on appelle le rappel à la loi par un avertissement probatoire. Alors, le rappel à la loi, c'est une mesure qui est à la disposition des procureurs de la République et que ceci...
Oui, ça passe même pas devant le juge.
Non, il n'y a pas d'intervention du juge parce qu'il n'y a pas de peine.
Voilà.
C'est une mesure qui est à la disposition des procureurs de la République, mesure qui leur permet, lorsqu'une infraction le plus souvent bénigne, si j'ose dire, a été commise, plutôt que de mettre en place un procès en saisissant un juge, c'est d'appeler le contrevenant et en quelque sorte officiellement de lui rappeler la règle, de lui rappeler que son comportement est contraire à la règle et en quelque sorte de l'avertir solennellement sur le fait que s'il y a réitération, il pourrait y avoir poursuite. Alors, je veux tout de suite rassurer en indiquant que le plus souvent, il peut y avoir des ratés, mais le plus souvent, le rappel à la loi est utilisé vraiment pour des comportements dont on peut estimer, même s'ils ont causé un préjudice, qu'ils sont relativement bénins. C'est la querelle entre voisins avec un problème de clôture, de limite de propriété, et l'un des voisins injurie l'autre. Est-ce qu'il faut nécessairement engager un procès, ou est-ce que le rappel à la loi solennel au cours duquel on prévient que s'il y a réitération, il y aura cette fois-là procès, est-ce que c'est pas une bonne manière d'entrevoir les choses?
Et c'est très utilisé.
C'est très utilisé. Oui. Sur les derniers chiffres que j'ai pu voir, en 2019, 200 000 rappels à la loi ont été utilisés sur le territoire national. Ça évite aussi ce que l'on avait avant, puisque les parquets ne pouvaient pas traiter toutes ces procédures, on classait. C'est-à-dire que pour le coup, on laissait ces comportements-là sans aucune réponse.
Oui, d'accord.
Par des mécanismes comme le rappel à la loi, on a la possibilité effectivement de rappeler la règle. C'est utilisé dans des hypothèses où sincèrement, le trouble à l'ordre public, le risque de récidive sont relativement inexistants.
Voilà. Et un des avantages de cette disposition, c'était sa rapidité.
Bien sûr.
C'est un
avantage effectivement non négligeable. Le temps d'un procès est toujours et souvent un temps long. Le rappel à la loi, beaucoup moins formaliste, permet effectivement d'intervenir lorsque il y a encore des braises qui couvent.
Dites-moi, pour rendre la confiance envers la justice, il n'a pas eu l'idée d'augmenter ses moyens financiers des fois ?
C'est toujours une interrogation récurrente, parce que, par exemple, dans le cadre du rappel à la loi qu'il envisage de supprimer, ce qu'il veut mettre en place, c'est un avertissement probatoire, c'est-à-dire que on va faire venir la personne, lui rappeler les règles et, dit le ministre, la surveiller pendant un an,
donc,
de sorte que si elle recommence, elle sera jugée pour le nouveau fait et pour le fait ancien. Mais la surveiller pendant un an, comment, par qui ?
Oui, bah c'est comme quand quelqu'un est condamné et puis qu'on prend une mesure de mise en...
De probation,
ouais,
et qu'on est censé effectivement être au plus près de cette personne, voilà, pendant le temps de la probation. L'idée théorique en soi, pourquoi pas, mais que met-on en face ?
Oui, c'est ça, la grande question. Ah oui. Bon, eh ben, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'être passé par notre studio, et puis ben, j'espère qu'on se reverra, allez, après peut-être l'épidémie.
Écoutez, monsieur Bouyagué, on se reverra sûrement après l'épidémie, et puis au moment où la confiance dans la justice
sera restaurée.
Allez,
ayant confiance dans l'avenir, c'est peut-être plus sûr. Merci.